au pays des contes. Bonjour. Eh bien, encore une fois, pour mon plaisir et j'espère le vôtre, je vous invite à écouter l'inoubliable petite musique des contes. Et Spani et Chadma, qui étaient frères et sœurs, vivaient il y a bien longtemps sur les plus hautes terres du monde. Oui, vous avez deviné, c'est le Tibet. Leur mère, un soir de grande fatigue, était morte dans son champ. Et leur père s'était perdu un jour d'hiver dans les neiges. Spani, le frère aîné, et Chadma, la sœur fluette, s'étaient donc retrouvés seuls dans la petite maison familiale. Et bravement, pour survivre, il avait bien fallu qu'ils se mettent tout jeunes au vieux labeur des paysans. Or, un matin, Chadma, conduisant ses moutons au pâturage, rencontre sur son chemin un berger de son âge. Ensemble, ils bavardent, ils rient et leurs yeux brillent. Ainsi va la vie des simples. Après quelques jours de rendez-vous joyeux, le berger dit à Chadma « J'aimerais me marier avec toi. Demain, si tu veux, j'irai demander ta main à ton frère aîné. » Alors Chadma baisse la tête et répond tristement « Mon frère éprouve pour moi une affection démesurée. Il n'acceptera jamais de me voir mariée. Tant qu'il sera vivant, je ne pourrai épouser personne. » Le berger réfléchit un moment, puis il dit « J'ai une idée. Ce soir, en rentrant chez toi, dis à ton frère que tu souffles terriblement de la tête et que tu vas mourir. Il te demandera que faire pour te sauver. Tu lui diras « Un seul remède peut m'arracher à la mort. Un grain d'ail du jardin de Petit Pot, le démon qui vit au fond de la vallée. » Aussitôt, Spani, par amour pour toi, s'en ira voler de l'ail dans le jardin du démon Petit Pot. Le démon Petit Pot le dévorera, car il est redoutable. » Ainsi parle le berger. « Tu es magnifiquement rusé, » lui dit-elle. Le soir venu, elle revient, gémissante, grelottante, à la maison familiale. Elle contrefait la malade, elle demande à grands cris un grain d'ail du jardin de Petit Pot, le démon de la vallée. Aussitôt, Spani selle son cheval, siffle ses deux chiens et s'en va sous la lune. À minuit, il entre dans le jardin de Petit Pot. Il remplit son sac de gousses d'ail, il le charge sur son épaule, mais voilà que l'énorme démon apparaît. Le cheval de Spani se dresse sur ses membres arrière. De ses deux membres avant, il saisit par les épaules Petit Pot, qui chancelle. Les deux chiens, en rugissant, mordent ses chevilles. Spani lui flanque un grand coup de bâton sur les jambes. Ah, Petit Pot hurle et tombe, la face contre terre, les mains sur la tête. « Ne me tue pas, » dit-il, « je suis ton esclave, je te servirai fidèlement. »« C'est bon, » répond Spani, « je te prends à mon service. » Et il revient chez lui, chevauchant. Petit Pot court devant et ses chiens derrière. Avant l'aube, il donne à croquer un grain d'ail à sa sœur, qui aussitôt se lève, fringante, et s'en va garder ses moutons dans la montagne. Quand elle raconte au berger les événements de la nuit, il se gratte la tignasse et il dit « Ton frère est très fort, mais aussi fort qu'il soit, il ne pourra survivre à la colère du démon Grand Pot, qui vit là-haut, à la cime de cette montagne. Ce soir, comme hier, contrefais la malade. Demande à ton frère Spani d'aller te chercher un grain d'ail dans le jardin du terrible Grand Pot. Cette fois, je suis sûre qu'il n'en reviendra pas. » Le soir venu, Chadma gémit dans son lit. Spani s'en va parmi les rochers noirs vers le repère du démon Grand Pot. Il chevauche, suivi de ses deux chiens et de son nouvel esclave, Petit Pot. Dans le jardin de Grand Pot, il coupe l'ail. Le démon apparaît, il retrousse ses manches. Aussitôt, le cheval lui tombe sur le dos. Les deux chiens l'agrippent aux chevilles. Petit Pot lui flanque deux gifles. Spani le bastonne joyeusement. Et Grand Pot s'écroule dans l'herbe et demande grâce. Le garçon revient chez lui, triomphant avant l'aube, suivi de ses deux chiens et de ses deux démons réduits en esclavage. Et Shadma, sa sœur, s'en va au pâturage de bon matin, l'œil clair et les joues fraîches. Alors son berger lui dit, frappant l'air de ses poings, « Par les cornes de mon bélier, je jure que ton frère ne survivra pas à l'épreuve que nous allons maintenant lui imposer. Rentre chez toi sur l'heure et fais la moribonde. Dis à ton frère que tu mourras dès demain, à moins qu'il ne te donne à manger une poignée de sel du grand lac extérieur. » Nul n'est jamais revenu de cette épouvantable contrée. Il périra, noyé. Shadma revient chez elle et elle braille sur son lit. Spani, tremblant d'angoisse, se penche sur son visage. « Il me faut, lui dit-elle, si tu veux que je vive, une poignée de sel du grand lac extérieur. » Aussitôt, il s'en va sur son cheval avec ses deux chiens et ses deux esclaves. Et parvenu au bord du grand lac extérieur, il dit à ses démons, à ses chiens, à son cheval, « Je vais plonger au fond pour ramasser le sel. Restez sur le rivage. » Et il disparaît sous les vagues. Les autres l'attendent, fidèlement. Ils attendent 3 heures. Espagny ne remonte pas. Alors Grand Pot s'impatiente. Il dit « Notre maître est prisonnier des eaux. Cheval et vous, chien, buvez. Il faut vider le lac. » Le cheval et les chiens boivent. Le niveau baisse un peu. « À toi, Petit Pot, » dit Grand Pot. Petit Pot boit. Mais il s'épuise avant que le fond ne soit sec. Et Grand Pot avale ce qui reste du grand lac extérieur. Sur un lit de sel apparaît Spani, mort. Grand Pot le prend dans sa main. Le cheval, les chiens, Petit Pot pleurent. « Ne vous désolez pas, compagnon, dit le grand démon, je vais le ressusciter. » Il sort de son oreille une fiole d'élixir magique qu'il répand sur le corps de Spani. Et Spani ressuscite. Et il revient chez lui en toute hâte. Shadma croque en grimaçant la poignée de sel que son frère lui tend et s'en va de bon matin conduire ses moutons au pâturage. Et son berger l'attend sur la montagne. Elle lui dit « Je ne pourrai jamais t'épouser. Spani est trop fort. Il a triomphé de toutes les épreuves. Je suis désespérée. » Alors son amoureux, l'air terrible, tenant à deux poings son bâton, lui répond « Il faut que tu le tues toi-même. Ce soir, dès qu'il sera endormi, prends une grosse pierre et écrase sa tête. Ainsi, dès demain, nous pourrons nous marier. » Le soir venu, Spani s'endort sur sa litière. Ses deux démons esclaves se couchent près de lui, sur le sol de terre battue. Un rayon de lune éclaire la chambre par la fenêtre ouverte. Shadma s'avance, tenant dans ses deux mains, au-dessus d'elle, un gros caillou de granit. À l'instant où elle va l'abattre sur la tête de son frère, Grand Pot ouvre un œil et se dresse en rugissant. Spani s'éveille, Shadma hurle, le grand démon la saisit entre le pouce et l'index, la soulève et la laisse tomber dans sa bouche ouverte. Et d'un coup de dent, il la coupe en deux et l'avale. « Malheureux, dit Spani, es-tu fou? Qui t'a permis de manger ma sœur ?»« Hé, mon maître, répond l'autre en s'essuyant les babines, elle voulait te tuer. » « Oh, ce n'est pas une raison, » hurle Spani. « J'aimais Shadma plus que moi-même. Maintenant que la voilà morte, je n'ai plus le goût de vivre. Je te rends à ta montagne, Grand Pot, et toi, Petit Pot, je te rends à ta vallée. Adieu, mes esclaves et mes chiens. Je ne veux être désormais qu'un vagabond mendiant. » Et sur son cheval, il s'en va, tête basse, et les larmes ruissellent sur ses joues. Il chevauche longtemps, jusqu'à la grande plaine déserte du bout du monde. Alors son cheval lui parle, car il n'est pas un animal ordinaire. Un esprit puissant l'habite. Il dit à Spani, « Je sais, moi, pourquoi ta sœur a voulu te tuer. Dans une vie antérieure, elle fut ta compagne, et tu l'as assassinée un jour de colère. Elle s'est réincarnée dans ta maison pour se venger. Voilà tout. Maintenant, ne pleure plus. Tes épreuves sont finies et les miennes commencent. Car je me sens très fatiguée, homme. Je vais mourir. Voici ce que tu devras faire quand je ne serai plus. Écoute bien. Tu me dépouilleras de mon pelage. Tu l'étaleras sur l'herbe et tu poseras ma tête au milieu. Dans ma bouche, tu placeras mon cœur. Tu casseras mes dents et tu les éparpilleras dans la plaine. Les poils de ma crinière, tu les abandonneras au vent de la montagne. Ne pleure pas surtout, car si tu pleures, il fera froid. » Ainsi parle le cheval, puis se couche dans l'herbe et meurt. Son compagnon tombe à genoux et se lamente. Aussitôt, la pluie tombe et le vent souffle en tempête. Enfin, fatigué de gémir, Spani s'étire longuement et sourit, pensant à l'étrange destin des hommes. Aussitôt, les nuages s'éloignent et le soleil revenu dans le ciel limpide réchauffe ses épaules. Alors il fait tout ce que le cheval lui a demandé de faire, puis se couche dans l'herbe et s'endort jusqu'au matin du jour prochain. Et une voix très douce le réveille. Il se dresse, frotte ses yeux. Devant lui se tient une jeune fille, d'une grande beauté. Elle lui dit « Lève-toi et ne t'étonne pas de me voir ici. Tu m'as délivré de cette carcasse de cheval dans laquelle j'étais enfermée. Toi qui as su, dans cette vie, aimer sans défaut, regarde. » Spani regarde autour de lui. De la tête du cheval a surgi un palais de 9 étages. Du cœur placé dans sa bouche, la jeune fille est sortie. Sur les entrailles répandues alentour, un rempart de pierre blanche s'est élevé. Des poils de la crinière éparpillés au vent de la montagne sont nés de superbes forêts, et de la peau étalée de vastes pâturages, et des dents jetées dans les prés un innombrable troupeau de moutons. Ainsi fut créé un pays parfait. Spani épousa la jeune fille, 3 enfants naquirent de leur union, et leur histoire est trop belle pour que je sache la conter. Maintenant, nous allons changer complètement d'atmosphère. Un beau jour, un pauvre marchand nommé Tsukpa arrive dans une grande et belle ville en fête. Les ruelles sont décorées de guirlandes, les boutiques illuminées, et Tsukpa suit le peuple endimanché. Il se sent léger et joyeux. Pourtant, il n'a pour toute fortune qu'un sac de vieilles marchandises accroché à l'épaule. Qu'importe ! Des bandes d'enfants le bousculent en riant, il rit avec eux. L'air sent bon les épices et les gâteaux frais. Il déambule au hasard, les mains dans ses poches vides. Et il arrive ainsi devant une auberge. Il jette un coup d'œil en passant par la porte vitrée. Aussitôt, il tombe en arrêt. Il aperçoit devant la cheminée une servante qui fait sauter des crêpes dans une grande poêle. Il adore les crêpes. Il regarde, l'œil allumé, la salive à la bouche un long moment, puis il pousse la porte, entre et dit à l'aubergiste « Je n'ai pas de quoi la payer, mais si tu me donnes une crêpe, tu feras une bonne action. » Écoute, répond le bonhomme, je te propose un marché. Je te donnerai la plus belle si tu peux me dire combien de ces crêpes qui te font tellement envie sont empilées sous la serviette que tu vois là, près de la cheminée. Ah, Tsukpa éclate de rire. Il le sait, il les a comptées derrière la porte à mesure que la servante les cuisinait. Et il dit triomphant, 21. L'aubergiste le regarde, abasourdi. « Tu es un grand clairvoyant, dit-il. Tu es de ces hommes rares qui voient les choses cachées. Tiens, rassasie-toi, mange, bois. Après quoi, je te conduirai chez notre roi, qui a perdu le plus beau cheval de son écurie. Il en est désolé et la tristesse le rend cruel. Si tu retrouves ce cheval merveilleux, tu nous éviteras bien du désagrément. » Et Tsukpa sourit béatement. Il mange, boit un peu trop et se laisse entraîner au palais royal. On ouvre devant lui de hautes portes d'ivoire. Le roi apparaît, assis sur son trône d'or, se penche vers le pauvre marchand, l'air terrible, et lui dit « Ainsi, homme, il paraît que tu es clairvoyant. Je te conseille donc de retrouver mon cheval favori avant demain midi. Sinon, tu auras la tête tranchée. Maintenant, hors de ma vue. » Tsukpa s'en va, pâle, suant froid. « Ah ben, me voilà bien embarqué, se dit-il. Moi qui ne suis en vérité pas plus clairvoyant qu'une taupe, Oh, il faut que je quitte ce pays au plus vite si je veux sauver ma tête. » Il se faufile par les ruelles comme un voleur, sort de la ville, court sur le grand chemin jusqu'à la nuit tombée. À la lueur de la lune, il aperçoit une maison abandonnée dans un champ. Il grimpe sur le toit et s'installe là pour attendre l'aube à l'abri des bêtes sauvages. Et il s'endort. Vers minuit, il est réveillé par des bruits de pas. Il se penche prudemment au bord du toit. Il voit juste au-dessous de lui trois hommes. Et ces hommes parlent à voix basse. Le premier dit « J'ai caché le cheval du roi dans ce petit bois de pin là-bas. »« C'est bien, » répond le deuxième. « Demain, nous irons le vendre au-delà des montagnes. » « Ah, maintenant, » dit le troisième, « allons dormir. La journée qui vient sera rude. » Ils entrent dans la maison. Alors Tsukpa descend du toit et s'éloigne sur la pointe des pieds. Dans le petit bois de pin, il trouve sans peine le cheval du roi, attaché au tronc d'un arbre. Il dénoue la bride, monte en selle et revient vers la ville. Il arrive de grand matin sous les fenêtres du palais royal. Le roi, entendant sonner sur le pavé les sabots de sa monture familière, sort devant sa porte. Il accueille Tsukpa avec enthousiasme. « Ah, tu es vraiment un merveilleux clairvoyant, » lui dit-il. « Désormais, tu seras mon conseiller. Entre, ce palais est le tien. » Tsukpa, le pauvre marchand, s'installe ainsi dans la grande vie tranquille. Mais, oui, il y a toujours un mais les jours paisibles ne durent guère. Un matin, le roi furibond convoque son nouveau conseiller et lui dit « On a volé ma bague de turquoise. Retrouve-la et vite. Je ne peux vivre sans elle, car elle est le signe de ma royauté. » Tsukpa s'incline. « Oh, cette fois, se dit-il, je n'échapperai pas à la hache du bourreau. Par chance étonnante, j'ai pu dire à l'aubergiste combien de crêpes étaient cachées sous sa serviette. Par chance insensée, j'ai retrouvé le cheval du roi. Mais je sens que sa bague de turquoise me sera fatale. » Il s'en va, les épaules voûtées, malheureux comme les pierres. Il erre dans la ville jusqu'à la nuit. Enfin, il s'assied, accablé, contre le mur d'une maison en ruine au bout d'une ruelle. Les mains sur le visage, il se lamente, il pleurniche. « Ah, autrefois j'étais pauvre, mais heureux. » Et il frappe du poing son front. « Qu'as-tu fait, homme fou ? » dit-il, « qu'as-tu fait ?» Alors, il entend une pauvre voix terrorisée qui gémit de l'autre côté du mur. « Hélas, une bien mauvaise action, monsieur, oui, c'est ce que j'ai fait, et qui me pardonnera ?» Tsukpa se dresse, les yeux ronds. « Qui a parlé ?» dit-il, effaré. Il se précipite dans la maison en ruine. Un homme tombe à genoux devant lui. Il le reconnaît, c'est le premier ministre du roi. « Ah, vous qui avez découvert ma cachette, dit le bougre, ayez pitié de moi. Oui, j'ai volé la bague de turquoise. Tenez, je vous la donne. Mais s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. » Tsukpa éclate de rire. Il est trop heureux pour n'être pas magnanime. Il laisse aller le premier ministre voleur. Il revient au palais avec la précieuse bague. Cette fois, le roi, pour le remercier, oui, lui donne sa fille en mariage. Le voilà riche et heureux. Tout le monde l'honore. Le respecte, le craint aussi, car on le croit d'une clairvoyance redoutable. « Ah, cet homme est aimé de notre roi, dit-on de lui, car il sait voir les choses cachées. » Quand il entend ainsi parler les gens, Tsukpa sourit et ne dit mot. « Bien faire et laisser croire, se dit-il, c'est la première loi de la sagesse. » Il joue donc les grands savants énigmatiques, lui qui n'a jamais fait que courir les chemins, son sac sur l'épaule toute sa vie. Un soir pourtant dans son palais auprès de la princesse, il se laisse aller à la mélancolie. L'envie lui vient de tout avouer à sa femme. Car Tsukpa est un simple, il lui déplaît de jouer le savant. Il avale donc quelques gobelets d'alcool pour se donner du courage. Il s'installe dans un fauteuil profond, fait asseoir son épouse près de lui et lui dit « Ma chère femme, écoute-moi, je n'ai jamais été qu'un pauvre marchand vagabond. Je n'ai jamais eu le moindre pouvoir de clairvoyance. Si j'ai su dire à l'aubergiste combien de crêpes étaient cachées sous la serviette, c'est que je les avais comptées pendant que la servante les cuisinait. Si j'ai retrouvé le cheval favori du roi et sa bague de turquoise, c'est que par un étrange hasard, j'ai rencontré ceux qui les avaient volés. En vérité, je ne suis qu'un pauvre homme que la chance a servi. » Ah, la princesse l'écoute. Et la colère s'allume dans ses yeux. Elle frappe enfin du poing sur son genou et rugit. Mon père m'a donné un vagabond, mais quel affront intolérable! Elle se lève et s'en va, furieuse. Elle se rend tout droit chez le roi, son père. Ton maître clairvoyant n'est qu'un imposteur, lui dit-elle. Voici pourquoi. Et elle lui raconte ce que vient de lui dire le pauvre Tsukpa. Le roi, perplexe, se gratte la barbe. Il réfléchit longuement. Il répond enfin, « Avant de faire trancher sa tête, je voudrais le soumettre à une dernière épreuve. Après tout, il ne t'a peut-être pas dit la vérité. Ou sait-on jamais avec ces magiciens ?» Il appelle son chambellan et il lui dit, « Monte sur la montagne. Grimpe plus haut que les forêts, plus haut que les bêtes sauvages. Grimpe jusqu'au dernier brin d'herbe avant les neiges éternelles. Là, tu saisiras entre le pouce et l'index le premier insecte que tu trouveras. Tu l'envelopperas dans ton mouchoir et tu me le ramèneras. » Et ainsi fait le chambellan. Il grimpe à la cime de la montagne et sur la dernière fleur qui se balance au bord des neiges éternelles, il cueille une petite abeille dorée. Il l'enveloppe dans son mouchoir, enferme le mouchoir dans son sac et redescend au palais royal. Alors, le roi convoque Tsukpa. Le pauvre marchand s'avance, tête basse, dans la grande salle du trône. Toute la cour est là. Les ministres, impassibles, les dignitaires, chenus, silencieux, l'air terrible, le regardent. Tsukpa marche vers le trône, aussi terrifié qu'un condamné à mort. Et devant le roi, il tombe à genoux. Le chambellan se tient debout à côté de lui, son mouchoir noué à la main. « Maître Tsukpa, dit le roi d'une voix sonore, si tu me dis ce que mon chambellan cache dans son mouchoir noué, je te donne la moitié de mon royaume. Si tu ne peux me le dire, je te fais trancher la tête. » Ah, c'est l'instant de vérité. Je suis perdu, pense Tsukpa. Il renifle, essuie une larme sur sa joue, puis il dit, tout tremblant, « J'entends déjà le sabre de ton bourreau tournoyer autour de mon crâne. Il fait un bruit semblable à l'abeille bourdonnant autour de la fleur. » Le chambellan ouvre son mouchoir. Une abeille s'envole. Le plus étonné de tous, c'est Tsukpa. Bouche bée, il la regarde disparaître par la fenêtre. Sans penser à ce qu'il disait, il a nommé l'insecte que le chambellan cachait dans son mouchoir. Il a gagné la moitié d'un royaume. Et plus jamais, jusqu'à sa mort lointaine, Tsukpa ne voulut jouer au magicien, de peur que la chance ne l'abandonne. On dit qu'il devint, au fil des ans, d'une grande et belle sagesse tranquille. Eh bien, nous étions ailleurs, très loin, et nous revoici chez nous. Et Bilinch était marin-pêcheur sur le bateau du capitaine Thomas. Oh, un brave homme, bourru, large d'épaule et grand de cœur. Et Thomas avait une fille et une femme qu'il adorait. Il était de ces hommes paisibles et silencieux, pour qui le travail quotidien et le simple amour familial sont les biens les plus précieux de la terre. Une nuit, juste avant l'aube, Bilinch, qui a dormi sur le bateau, se réveille en sursaut. Il bondit sur le pont, l'air effaré, prend Thomas par le revers de sa veste et il lui dit « Capitaine, il ne faut pas partir. Croyez-moi, je vous en prie, il ne faut pas partir. » Et il pleure presque. Thomas le regarde, soulève sa casquette, se gratte le front. Le bateau déjà quitte le port. Le ciel pâlit à l'horizon. Bilinch regarde autour de lui et prend sa tête à deux mains. Thomas déjà s'affaire. « Ah, nous n'avons pas les moyens de prendre du congé, petit, dit-il. Oh, j'ai fait un cauchemar, murmure Bilinch. » Il semble se reprendre un peu, il aide à la manœuvre. Les voici au large, sur les vagues tranquilles, dans le soleil du matin. Alors le capitaine Thomas prend son matelot par l'épaule et lui dit « Allons, raconte-moi. » Il allume sa pipe et Bilinch raconte. « Hier soir, dit-il, je ne sais pourquoi, je n'ai pas pu m'endormir. » J'avais un peu de fièvre, peut-être. Je suis monté sur le pont et je me suis assis à la belle étoile. Alors j'ai vu deux sorcières, capitaine. Je les ai vues s'envoler sur le quai comme deux grands oiseaux pâles et se poser sur notre bateau. La première était assez vieille et la seconde plutôt jeune. Leur visage était couleur de lune. Elles se sont approchées de moi. J'ai fait semblant de dormir, je les ai entendues parler. La vieille a dit « Demain, je ferai se dresser 3 vagues immenses devant ce navire. La première de lait, la deuxième de larmes et la troisième de sang. Ils pourront peut-être échapper à la première, à la deuxième, mais la troisième déferlera sur leur tête. » Et la jeune fille qui l'accompagnait a répondu « Il faudrait pour survivre qu'ils lancent un harpon dans la vague de sang, car nous y serons cachés, invisibles à leurs yeux, et le coup qui la frapperait percerait notre corps. » « Oui, a ricané la vieille, mais cela, il ne faut pas le dire. » Ainsi parle Bilinge, puis il se tait. Sa bouche tremble. « Et alors ?» dit Thomas, penché sur lui. « J'ai ouvert les yeux, » répond Bilinge. « Et j'ai vu s'éloigner une lueur brumeuse dans le ciel. »« Ah, maintenant, le bateau fend les vagues ensoleillées. » Bilinge s'appuie au bastingage, le regard perdu. Soudain, le doigt tendu vers l'horizon, il hurle. Une muraille blanche surgit de l'eau bleue, une énorme lame éblouissante comme une montagne neigeuse. Elle déferle, elle soulève la barque qui grince, gémit, craque. Elle roule dans un fracas de fin du monde. Thomas, Bilinge et les matelots, cul par-dessus tête, voient la vague de lait derrière eux s'éloigner vers le rivage. Ils se relèvent juste à temps pour voir se dresser droit devant la vague de larmes, semblable à un bataillon de nuages noirs au ras de l'eau. Cette vague de larmes les traverse comme un brouillard irrespirable. Ils toussent, s'étouffent, s'écorchent la gorge, suffoquent, les yeux brûlants. Un homme affolé veut se jeter à la mer. Thomas le saisit par le col et le renverse sur un tas de cordages. Ils reviennent enfin dans l'air bleu, sous le soleil. Et ils respirent à longues goulées, les poings crispés sur leur poitrine. Alors vient la vague de sang. C'est la plus haute de toutes. Elle éclabousse le soleil. Elle s'avance comme une armée de dragons aux ailes déployées dans une brume éclatante et rouge. Sur le pont du bateau, les matelots tombent à genoux. Alors Thomas empoigne son harpon. Il se dresse à la proue, minuscule et fier devant la vague monstrueuse qui efface maintenant le ciel. De toutes ses forces, il lance son arme. Alors un double hurlement déchire l'air. La vague de sang se fend. Le bateau traverse la brèche entre deux falaises écarlates. Oui, ils ont vaincu la malédiction des sorcières. Thomas et ses hommes font ce jour-là une pêche miraculeuse. Quant au soir tombé, le petit bateau peint en vert revient au port. Quelques femmes silencieuses vêtues de noir attendent les matelots sur le quai. Biline déjà la nouvelle. Les deux sorcières qu'il a entendues bavarder la nuit dernière, il les a reconnues, mais n'a pas voulu dire qu'elles étaient. La femme et la fille du capitaine Thomas. Et elles sont mortes toutes les deux, le cœur percé par on ne sait quoi. On les a retrouvées ainsi sur le carreau de leur cuisine. Thomas ne sait rien encore. Il descend lentement sur le quai. Eh bien, il me reste à vous dire que, à votre tour, racontez ces récits magiques autour de vous. Vous prolongerez d'autant la vie des dieux. Au revoir. Thank you.